IDFM Radio, le média valdoisien.
Parole d'ado, regard de pro sur IDFM Radio, c'est à découvrir maintenant avec vos deux invités du jour. Bonjour Laurie Nguyen.
Bonjour.
Chargée de mission éducation aux médias et au numérique.
Exactement.
Pour Jeune Info Valdoise.
Oui.
Et nous sommes aussi avec Lisa Goïta.
Oui, bonjour.
Et je ne lui ai même pas demandé sa fonction. Qu'est-ce qu'elle fait depuis toutes ces années?
Moi, je suis encore en études. Je suis alternante journaliste au sein du Centre Information Jeunesse du coup du Val-d'Oise.
Et ça veut dire que c'est pour faire par la suite du reportage.
Exactement.
Être une grande journaliste.
J'espère.
Tout se passe bien, les études?
Ça se passe très bien.
C'est pas trop long?
Non,
c'est pas trop compliqué.
Ça touche à la fin, là, ça y est.
Ah, très bien.
Bientôt.
Donc, vous avez appris plein de choses.
Plein de choses.
Avec des journalistes qui viennent d'un petit peu partout, presse écrite, radio, télé.
C'est ça.
Et aujourd'hui, donc, vous vous retrouvez avec Laurie pour ce beau projet Parole d'ado Regard de Pro, qui a été initié il y a déjà quelques mois et qui a vu réellement le jour au mois de novembre dernier à l'occasion d'un événement précis. Laurie, c'était lequel?
C'était la Journée mondiale de l'enfance, donc le 20 novembre. Et c'est la journée mondiale où on fête à peu près tous les droits de l'enfant, en fait.
Et tous les ans, vous menez une action précise au sein d'Info Jeune Val-d'Oise?
Alors, on a le droit à l'accès au droit au niveau Info Jeune, donc je pense que oui, cette thématique correspond correctement aux enfants.
Comment, du coup, Lisa, vous vous êtes retrouvée sur ce projet? Vous êtes un peu l'initiatrice aussi, vous aviez un petit peu cette idée en tête? Parce que là, c'est quand même du journalisme, hein. Réaliser des podcasts, ados interrogent des spécialistes sur différents thèmes.
Initiatrice, non, pas du tout. Malheureusement, je ne pourrais pas me donner ce titre. Non, j'ai rejoint le projet en cours de route. Mais du coup, j'ai pu y apporter ma patte, voilà, retravailler un petit peu les podcasts, donner mon avis, etc.
Vous avez travaillé en tout cas sur un dossier que vous avez monté pour pouvoir créer tous ces podcasts. C'était un appel à projet. Et qui a entendu parler justement de ce projet, de cette initiative au sein de Info Jeune Val-d'Oise?
Alors, c'est le ministère de la Culture qui a lancé un projet par rapport au café des parents, sachant
Est-ce que le ministère de la Culture vous contacte, vous dit on fait ça?
Non, ils font un appel à projet. En fait, ils lancent un appel à projet et nous on y répond.
Et cet appel à projet, vous allez le chercher aussi de quelle façon, de quelle manière?
On est au courant. Enfin, la plupart des associations souvent sont aussi
recevez des mails.
Il y a un réseau,
Il y a
un réseau de plus de 1300 structures et en fait, on communique tous ensemble. On a des plateformes où toutes les informations au quotidien elles vont tomber. Et puis nous, on va glaner ce qui nous intéresse là-dedans. Et donc là, pour le coup, le projet, c'est un Graal.
Donc un projet, ça se monte de A à Z. C'est pas comme ça en claquant des doigts. C'est de la paperasse à gogo, hein. Un dossier comme ça, on le voit pas en radio, mais c'est assez conséquent, c'est assez épais. Hein.
Alors, c'est assez épais, mais nous, dans le Val-d'Oise, on a eu de la chance dans le sens où on faisait déjà des cafés des parents. Direction justement de tout ce qui est les problématiques des réseaux sociaux. Et donc quand le ministère de la Culture et aussi Info Jeune France nous a proposé de répondre à cet appel à projet, pour nous c'était assez simple dans le sens où on le faisait déjà. Donc après il a fallu par contre bien sûr l'améliorer ce café des parents par rapport aux thématiques qui sont maintenant d'actualité, donc tout ce qui est cyberharcèlement, on voit voilà des données personnelles surtout avec l'IA qui commence à faire émergence, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font les ados, voilà toutes les questions des parents qui se posent vraiment sur des ados, et donc est venu notre projet Café des parents.
Pardon, le Café des parents, on peut préciser en quoi ça consiste? Ça rejoint en tout cas aujourd'hui Parole d'ado au regard de pro. Hein.
Oui.
Et ça, c'était déjà avant. Hein.
Oui.
Depuis combien d'années?
À peu près depuis plus de 2 ans, on fait des cafés des parents. Donc un café des parents, c'est en gros, on regroupe des parents et on leur laisse la parole. Enfin, on aborde une thématique et on leur laisse la parole. C'est un peu un temps d'échange et d'écoute.
Ils viennent chez vous directement,
oui.
Info Jeune Val-d'Oise?
Oui. Alors il y a
deux
possibilités.
Vous avez une salle dédiée où vous recevez du public?
Oui. Ça va soit se passer dans nos locaux ou des fois on a des partenaires qui nous proposent d'autres espaces. Mais oui, l'idée, c'est de les accueillir dans un espace bienveillant où ils sont bien reçus et pour discuter, voilà, parler de leurs inquiétudes, les questions qu'ils peuvent avoir et de rassurer tout ce petit monde
rapidement. Leurs inquiétudes, donc du coup, en tant que parents.
En tant que parents, en tant que professionnels, c'est pas que des parents, mais voilà, c'est des personnes très proches d'enfants, du moins.
Et donc, vous vous aidez, en tout cas, tout le monde s'entraide mutuellement, puisqu'il y a d'autres parents. Quelle est la solution pour trouver une activité à mon adolescent?
L'idée,
une bêtise comme ça, mais
l'idée, c'est pas que ce soit simplement les professionnels qui apportent une solution, mais aussi entre parents, eux, d'échanger, de dire, bah moi, avec mon enfant, il se passe ça, j'ai essayé ça. Est-ce que ça peut être une solution pour toi?
Voilà, ça marche ou ça marche pas?
Exactement.
Oui.
Et puis il y a d'autres solutions qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est encore organisé, ces cafés des parents.
Oui, tout à fait.
Et c'est une fois par mois, tous les trimestres.
Tout dépend de la demande.
Ouais, voilà. Ouais, défini. C'est en fait, nous, au quotidien, on va recevoir des parents et des jeunes. On voit en fait en fonction des questions qu'on va avoir au quotidien et on adapte les sujets. Effectivement, on va avoir beaucoup plus de choses là en ce moment, peut-être sur le numérique, etc., que sur, je vais dire une bêtise, mais sur la sexualité. Enfin, ça dépend des périodes en fait. Et c'est quand on a une redondance de questions qu'on va plutôt diriger nos séances sur tel ou tel sujet.
C'est cool, ça, c'est une belle initiative en tout
Exactement.
Cas. Et c'est plutôt des femmes, des hommes qui viennent, des couples de
tout. Il y a des couples de parents qui viennent.
Oui. Oui, il y a des couples de parents, il y a des parents seuls. Enfin, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas plus une population féminine ou plus une population masculine, pardon. C'est vraiment des parents qui sont curieux, qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger et que nous, on est là, vraiment là pour les écouter, pour, pas forcément pour leur donner des solutions parce qu'il y en a, enfin, on est sur de l'éducation. L'éducation, c'est toujours complexe, mais on va dire des petits tips à essayer avec ses ados, voilà.
Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on n'est pas bien guidé aussi. On regarde les autres.
C'est ça.
Voilà, on regarde nos parents, mais est-ce que nos parents ont bien fait? Bon, bah si, ils nous ont appris quand même certaines choses, ils l'ont fait à une certaine période. Mais est-ce que nous, on est bon? Est-ce qu'on est dans l'air du temps? Est-ce qu'il faut se comporter comme nos parents le faisaient avec nous? Je suis pas sûr en tout cas, puisque ça évolue. Effectivement, là, c'est plutôt... Alors si, le harcèlement, il a toujours existé.
Harcèlement,
c'est vrai que là,
ouais.
Ça se réveille parce qu'il y a eu beaucoup de drames, parce que malheureusement, c'est triste, mais il faut attendre que des jeunes se tuent, se suicident pour se dire « mais c'est pas possible, il y a un taux énorme, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on lance des campagnes ». Alors c'est à l'école, c'est dans la rue, c'est sur les réseaux sociaux aussi.
C'est
vrai que nous, à l'époque, on n'avait pas trop ça, on pouvait se faire harceler. En règle générale, c'était plutôt à l'école, mais pas sur les réseaux sociaux. Et comme le disent souvent les reportages qu'on le voit, ça se termine jamais, en fait. Depuis quelques années, à cause des réseaux sociaux, bon, ils nous apprennent plein de choses aussi. C'est intéressant les réseaux sociaux, mais derrière tout ça, si on fait pas attention, bah, c'est H24 qu'on se fait harceler. Donc il y a ce genre de thématique qui revient en règle générale assez souvent quand vous recevez les parents.
Oui.
Oui.
Oui, oui, c'est très très courant. Et puis la nouveauté, c'est que c'est une nouvelle pédagogie. C'est que là, on peut pas s'appuyer sur nos parents parce que le numérique n'était pas là, le portable n'était pas là. C'est une toute nouvelle pédagogie. Donc c'est le fait d'être vraiment tout nouveau qui est important. Et donc on n'a pas de modèle. On n'a pas le code du numérique. On n'a pas le code au niveau des portables. On s'adapte en fonction d'eux. Ça va très vite. C'est une innovation numérique. Bah voilà, elle est très rapide, très vite, qui évolue très vite aussi. Et ne serait-ce qu'aussi pour nos jeunes. Et donc c'est vrai que c'est ça toute la difficulté. C'est qu'on n'a pas de modèle, c'est vraiment tout récent. Peut-être dans 10 ans, on aura peut-être là un peu plus d'écrit,
un peu de recul,
ouais. De recul.
Aujourd'hui, c'est vraiment le thème principal. C'est le thème qui revient assez souvent, en tout cas, le harcèlement.
Oui, et puis que fait mon ado, en fait? Souvent, les parents sont très inquiets de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux.
À quoi il a accès?
C'est ça.
À quel contenu?
Après, c'est aux parents d'interdire ou pas, de toute façon.
C'est ça.
Le problème, c'est que souvent, on donne un téléphone portable sans mettre un cadre derrière. Mmh. C'est pas comme si on donnait des clés d'une voiture et que mon enfant, je sais qu'il a le permis, il a le code. Là, c'est autre chose. C'est complètement différent.
Ça n'existe pas, le permis du numérique.
Non, et c'est tout ça, en fait.
Après, jusqu'à quel âge aussi? Parce qu'à un moment donné, il faut laisser son enfant prendre son envol.
Bien sûr.
Je sais que c'est compliqué. Moi, je suis parent aussi. Bon, ils sont encore petits, les miens. Mais à quel moment, voilà, il faut, entre guillemets, leur lâcher la grappe?
Alors, je dirais, c'est plutôt tout un accompagnement au moment où on décide de donner un téléphone portable auprès de son enfant. C'est tout un accompagnement. Et après, c'est vraiment la relation de confiance qu'on a auprès de nos enfants qui nous permet tout simplement de laisser l'autonomie, au fait. Alors que si on donne le portable et qu'on laisse toute l'autonomie et qu'après on veut recadrer, on sait très bien que c'est très difficile.
Ça marchera pas.
Je vais faire mon vieux, mais à l'époque, on n'avait pas.
Oui. Ouais.
On allait à l'école sans téléphone portable, que ce soit primaire, collège et lycée. Donc, s'il se passait quelque chose, c'est le proviseur qui appelait les parents au travail du parent. C'était comme ça, ou à la rigueur sur nos lignes fixes. Mais c'était une autre période. Je ne sais pas si c'était plus compliqué ou pas. Mais c'est vrai que là, on a le téléphone portable, donc c'est plus facile de prévenir. Bref, en tout cas, il y a ce genre de thématique. La sexualité aussi, ça revient assez souvent. Ça doit être compliqué pour un parent de parler de sexualité avec ses enfants.
Ça fait peur. Hein.
C'est beaucoup plus compliqué. Après, tout dépend c'est toujours pareil. Tout dépend de la relation qu'on a auprès de notre enfant. Et comment on se sent aussi sur cette thématique. C'est beaucoup aussi sur soi. C'est-à-dire que si on n'a pas eu de soucis ou de traumatismes, c'est plus facile de parler avec son enfant de cette thématique-là, alors que si nous-mêmes on a un blocage, forcément on va avoir un blocage auprès de notre enfant.
Et comment ça a été aussi abordé avec nos propres parents ?
Oui.
Comment est-ce que vos parents vous ont parlé de sexualité ou pas ? Est-ce que c'était un sujet tabou ou pas ? Et il y a plein de personnes qui, parce qu'ils ont eu une sexualité libérée grâce à l'éducation parentale, appliquent ça plus facilement avec les enfants. Au contraire, ceux qui ont été vraiment bridés et pour qui c'était un tabou, soit restent dans le même modèle et on reproduit des schémas avec les enfants, ou justement vont avoir envie de tendance à vouloir casser ce système-là et non, j'ai pas envie que ça se reproduise avec mon enfant.
Mais en règle générale, grâce à vous, les parents se libèrent un peu plus. Il y a une espèce de cocon, vous êtes dans une bulle, il y a d'autres parents aussi et la parole sort plus simplement.
C'est toujours une thématique un peu plus complexe. Est-ce qu'il se libère ? Je dirais oui et non. Tout dépend du parent et tout dépend aussi de son caractère. Mais du moins, après, c'est surtout les outils qu'on donne qui sont là importants et surtout qui permettent de remettre le parent en confiance. Parce qu'à un moment donné, il va falloir y arriver. Tiens, qu'est-ce que tu as regardé, mon fils ? Est-ce que c'était des images choquantes ? Est-ce que tu penses que c'est du porno ? Enfin, voilà. La pornographie a tout un mot maintenant beaucoup plus décomplexé comparé à avant.
Beaucoup plus facile d'accès. Hein.
Oui, aussi.
On va se retrouver d'ici quelques minutes, toujours avec Info Jeune Valdoise. On continue à parler de vos cafés des parents, mais aussi on écoutera quelques extraits de Paroles d'ado, Regards de pro. Donc une série de 6 podcasts que vous avez réalisés à la fois avec des parents, des ados, des professionnels. Il y a des parents qui réagissent dans les podcasts ?
Non, il n'y a que des adolescents et des experts.
Et des experts, donc, de différents...
Qui sont, pour certains, parents.
Oui, 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 oui.
Qui ont un regard différent.
Nous sommes toujours avec Laurie Nguyen et aussi Lisa Goïta. Toutes les deux, vous faites partie donc de la structure Info Jeune Valdoise, qui se trouve à Cergy.
Oui, tout à fait, à Cergy-Préfecture.
Depuis longtemps ?
Oh, oui, depuis très longtemps.
Oui, oui.
Je crois qu'ils ont fêté leurs 40-50 ans.
Ouais, on est sur la structure Info Jeune France. Déjà, globalement, on est à plus de 50 ans d'existence. Donc, ouais, Valdoise, on ne doit pas être très, très loin non plus.
À tout de suite sur IDFM Radio. IDFM Radio, aujourd'hui, on parle toujours de Paroles d'ado, Regards de pro. C'est un podcast, en fait, qui existe depuis quelques temps. Il suffit de flasher un QR code ou d'aller peut-être sur YouTube ou
toutes
sur une plateforme spéciale, spécifique pour découvrir ces différents contenus. Il y a 6 podcasts qui ont été créés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec donc Info Jeune Valdoise qui a postulé en quelque sorte. Il y a eu un appel à projet et vous avez créé avec des spécialistes dans différentes thématiques ces podcasts à destination à la fois des ados mais aussi des parents, puisqu'on l'a dit aussi, vous avez régulièrement des parents qui viennent vous voir à Cergy au sein d'Info Jeune Valdoise et puis qui vous posent une multitude de questions sur comment qu'est-ce qu'un ado, comment mon ado va grandir, est-ce qu'il va prendre encore des centimètres quand il aura 18 ans, 25 ans, etc. Bon, j'exagère un peu, mais c'est des thématiques bien évidemment plus importantes sur le harcèlement, la sexualité, les jeux vidéo ou encore les réseaux sociaux. Et je suis toujours avec donc Laurie.
Oui.
C'est bien ça. Et Lisa. Hein.
Oui.
Lisa, donc, qui va peut-être bientôt quitter Info Jeune Valdoise. Il y a peut-être une place pour elle, non? Il n'y a pas moyen de l'embaucher, Laurie?
Je ne pense pas.
Malheureusement. C'est compliqué.
Non,
c'est...
le milieu associatif, c'est compliqué en France.
Mais est-ce que, Lisa, c'est un petit peu, pas forcément votre ambition, mais est-ce que vous avez envie de continuer à travailler aussi un peu dans ce milieu-là?
Non, j'adore ce que je fais aujourd'hui au sein de l'association et toutes les valeurs qu'on représente, mais j'ai envie de voyager un petit peu. J'ai envie de partir.
En tout cas, c'est cool parce que vous êtes passionné par le journalisme depuis longtemps.
Ouais.
Et dans cette association, vous en avez fait. Hein.
Bah, je touche à tout, donc oui. autant là sur les podcasts que toute la partie écrite, voilà, vidéo.
Et Laurie, on redonne votre fonction?
Exactement, de charger d'éducation aux médias, donc faire des ateliers auprès des enfants et des jeunes, des ateliers auprès des parents. Je fais beaucoup de formations auprès des professionnels de la jeunesse. Et donc, voilà. Et après aussi animer tout le réseau des professionnels d'InfoJeunes Valdoise.
Ça, depuis combien d'années?
Moi, ça fait 2 ans.
Donc, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout récent.
C'est ça.
Et avant, vous étiez dans quel secteur?
Avant, j'étais toujours dans le milieu associatif. Je travaillais pour les Francas du Valdoise, donc une association militant des droits de l'enfant.
Parole d'ado au regard de pro, ça... quand même, ça vous titille, ça vous démange de pas forcément faire d'autres, d'en réaliser d'autres. Là, il y en a que 6. Bon, vous avez choisi les thèmes principaux, hein, mais ça a été un beau projet. En tout cas, ce projet, il se poursuit puisque maintenant tous ces podcasts sont disponibles. Mais est-ce que il y aurait pas peut-être dans l'idée de peut-être, Lisa.
Il est prévu prochainement une série de podcasts que je vais encore réaliser, mais qui là sera pas uniquement réservé aux ados. Voilà, il y aura un pan ado, un pan parent, professionnel. Enfin, voilà, ce sera très large et ça parlera, ouais, de l'actu des jeunes. Donc,
c'est vrai que c'est tendance les podcasts et puis ça permet de. Ouais. D'écouter ça librement, à n'importe quelle heure.
Les parents dans la voiture le matin.
Voilà, un contenu important aujourd'hui. Hein. C'est une information qui passe facilement, en tout cas, à travers ces différents podcasts. Donc, vous avez rencontré pas mal de spécialistes. On va écouter un extrait du podcast Fake News avec, justement, Lisa.
C'est ça.
Qui prête sa voix au début, hein, parce qu'il y a toujours une petite introduction. Et derrière, donc, vous posez des questions à une spécialiste
qui
travaille dans ce domaine-là.
Oui, c'est Virginie Sassoon. Elle est directrice adjointe du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information et au service du réseau Canopée. Donc, pour l'éducation des jeunes. Et elle nous donne eh bien, tout son point de vue sur la situation actuelle, comment les jeunes perçoivent l'information, les fake news.
Écoutons comment est fabriqué ce podcast Parole d'ado, regard de pro sur IDFM.
Parents d'adolescents, vous posez des questions autour du numérique? Cyberharcèlement, réseaux sociaux, jeux vidéo, fake news, données personnelles, sexualité en ligne. Bienvenue dans l'émission du réseau InfoJeune qui vous aide à relever le défi de la parentalité à l'ère du numérique. À chaque épisode, découvrez la vie des jeunes et le regard d'un ou d'une professionnelle.
Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast sur les fake news. Je vais vous laisser la parole, peut-être commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ?
Alors, je suis Virginie Sassoon, directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l'éducation médias et l'information. Le CLEMI a 40 ans. 41 ans plus précisément, et ça fait 40 ans qu'on forme les enseignants et qu'on crée un lien entre les médias et l'école.
Super, merci. On va commencer bien dans le sujet, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, concrètement, qu'est-ce que c'est les fake news ?
Alors, qu'est-ce qu'une fake news ? Alors, cette question, j'ai envie de répondre que la désinformation et la volonté de désinformer, elle a toujours existé. On a fait un partenariat très intéressant avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et on a travaillé avec leurs archives, et on voit que dès le Moyen-Âge, en fait, il y a toujours eu des forces politiques, économiques, des personnes qui ont souhaité désinformer pour influencer les opinions. Donc, je dirais que voilà, la question de la désinformation, elle est pas nouvelle. En revanche, ce qui a vraiment changé, c'est la multiplicité et la diversité des formes de désinformation. Aujourd'hui, on voit que il y a des rumeurs. Bon, les rumeurs, c'est très ancien, mais des canulars et la question de la désinformation politique, de l'ingérence, elle prend des visages qui sont extrêmement compliqués, difficiles à détecter. Ça passe par des stratégies d'influence qui sont vraiment très subtiles. Donc voilà, il y a eu une grande diversification des formes de la désinformation et une multiplication, une industrialisation, on pourrait dire même avec les réseaux sociaux et maintenant l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup pour cette explication sur les fake news. Je vais vous faire écouter la parole des jeunes sur ce sujet.
Que penses-tu de ce chiffre ? 88% des fake news viennent des réseaux sociaux.
Bah, c'est beaucoup quand même, mais moi personnellement, il y a des choses où j'y crois, mais d'autres où j'y crois pas.
Ça me choque pas plus que ça. Enfin, c'est un chiffre que j'attendrais si je devais le supposer comme ça.
Comment est-ce que tu t'informes et te tiens au courant de l'actualité ?
Pas forcément spécifique, mais Wikipédia.
Bah, celui que je suis le plus, c'est Dormir au courant sur Insta. Et c'est là où j'ai le plus d'informations. Et je regarde aussi les commentaires pour me forger un avis aussi moi-même.
Intéressant. Un joli contenu. On n'a pas tout écouté parce qu'en règle générale, vos podcasts ont une durée d'une vingtaine de minutes. Hein.
Ouais. On va sur certains même jusqu'à presque 30 minutes.
Donc là, c'est des échanges avec cette professionnelle et elle est souvent, la plupart du temps, elle ou les autres professionnels questionnés, soit par des ados, soit par des parents.
Oui, il y a beaucoup d'interventions, elle, auprès des jeunes, parfois. Bah, en fait, elle travaille au Clémy, donc elle est beaucoup sollicitée pour intervenir auprès des jeunes dans différentes structures, des fois dans des lycées, etc. Donc elle est en contact permanent avec la jeunesse et leurs problématiques.
Comment du coup vous avez travaillé, comment vous avez réalisé exactement ces podcasts ?
C'est beaucoup de recherche en amont déjà sur la thématique, sur après voilà, je vous invente rien, c'est un travail d'interview, donc aller chercher les questions vraiment pertinentes pour les jeunes, pour leurs parents surtout, et savoir qui on a en face. Et Virginie Sassoon, une femme très intéressante qui avait beaucoup de choses encore à nous apprendre, même à nous, sur toutes les fake news, tout l'univers des médias.
Et à travers vos cafés des parents, du coup, vous avez expliqué à ces parents que vous alliez réaliser des podcasts et qu'éventuellement, c'est eux qui vont être les acteurs, en tout cas, de ce podcast pour poser des questions à ces différents spécialistes. Ça a été bien vécu, ils étaient peut-être intimidés en tout cas parce que après il faut rentrer en quelque sorte en studio aussi pour enregistrer les questions. Je sais pas si les intervenants vous les avez tous vus physiquement ou ça s'est fait par téléphone. Donc c'est aussi des prises de rendez-vous à mettre dans les agendas.
C'est ça, c'est le métier de journaliste hein. Finalement. Beaucoup, je vous apprends rien.
Oui. Beaucoup se sont fait en visio et il faut savoir que c'est pas vraiment des paroles, enfin ce sont des questions qu'on s'est posées entre professionnels, qu'on a posées auprès des ados en micro-trottoir. Donc il y a vraiment une partie micro-trottoir
qui est faite en amont.
En amont. Et après, on a donc un entretien avec les différents spécialistes en amont. Et après, on enregistre.
Qui réagissent à ces micro-trottoirs de jeunes.
C'est ça.
Et qui vont répondre à leurs questions et du coup éclairer des questions éventuelles des parents.
Et les micro-trottoirs, c'est vous, Elisa ?
C'est pas moi, c'est mes collègues, c'est mes collègues du centre information jeunesse, donc les alternants vidéo et communication Guillaume et Loïc qui ont travaillé sur ces micro-trottoirs.
C'est un travail vraiment de longue haleine.
De longue haleine d'équipe.
Oui. Micro-trottoir, c'est sympa à faire, mais c'est pas toujours évident d'accrocher les passants.
Faut tomber sur le bon public, ouais.
Et puis derrière, faut faire le montage aussi.
Oui.
parce que certaines personnes vous répondent oui, non, ou pas grand-chose.
Ouais, beaucoup de
Oui, c'est ça.
Le plus gros, c'est le montage. En tout cas, ça a été passionnant et, ouais, et une belle aventure. D'autres spécialistes, peut-être qu'on peut en citer d'autres, sur la sexualité, par exemple, des médecins, des...
Alors non, c'est Charline Vermont qui est donc une autrice de justement Corps, Amour, Sexualité, un livre à destination vraiment des parents qui est en mode bande dessinée par une dessinatrice, c'est Stomy Buzzy, que j'adore aussi. Et donc,
qui vous avez dit ?
Stomy Buzzy. Stomy Buzzy.
Ah, Buzzy, j'avais compris Stomy Bugsy. Là, non. C'était presque ça.
C'est ça. Et donc Charline Vermont qui a aussi son propre Instagram, Orgasme et moi. Dedans, elle aborde aussi les notions de sexualité qui sont aussi à destination de tous.
Et elle explique à partir de quel âge on peut parler de sexualité.
Alors, il y a pas. Enfin, elle dit, ouais, voilà, elle dit bien que c'est le plus tôt possible, au fait. Quand on dit sexualité, faut pas voir le sexe en lui-même. C'est beaucoup plus large.
Apprendre à l'enfant son corps.
Pourquoi, oui, exactement. C'est
ça. Il a zizi. Pourquoi la fille, elle a un autre organe.
Le consentement,
organe,
le consentement. Qui peut me toucher, qui ne peut pas me toucher, qui peut me voir ou pas.
Ça, aujourd'hui, on l'apprend aux enfants à l'école.
Je crois qu'il y a eu un tout nouveau programme. Ouais. Alors, je me suis pas
ça
assez
commence, rentre, ça commence, c'est voilà. Encore un peu compliqué à faire rentrer dans les mœurs et à c'est faire ça. Accepter à tous les parents que non, on va pas apprendre à leurs enfants de 3 ans ce que c'est une relation sexuelle, pas du tout, mais que voilà, il y a des notions de base.
Mais c'est vrai que ça effraie, ça fait peur.
Ouais, parce que les parents ne savent pas de quoi on parle au fond. C'est pas un cours d'éducation sexuelle qu'on va donner à leur enfant de 3 ans, mais juste des bases de consentement, de j'ai le droit, j'ai pas le droit. Pour juste
pour
la sécurité.
Pour qu'ils se protègent, effectivement, ouais, et qu'ils disent pas oui à n'importe qui, parce que
exactement,
c'est vrai que...
Oui. Et puis ils vont appuyer sur la relation par rapport à l'autre, en fait. Et après, il faut bien se dire que ça va être des professionnels qui vont mener ces cours. C'est pas n'importe qui se dit tiens, professionnel.
Donc il y a aussi sur les jeux vidéo, oui, une thématique aussi qui revient, qui est récurrente, les enfants qui aiment jouer à ça, que ce soit sur une console ou même sur les téléphones portables, et puis les opérateurs ils sont pas très cool parce que des fois ils nous en installent comme ça, hein. Moi j'en ai plein, j'ai rien demandé du tout et ça s'installe tout seul. Je trouve pas ça très normal, mais bon.
La technologie.
Donc les jeux vidéo, effectivement, aussi sensibiliser les plus jeunes. On peut jouer, mais avec modération. Voilà.
Alors au-delà du jeu, en fait, donc nous avons interrogé Yann Leroux, qui est docteur en psychologie et psychanalyste, et on va au-delà de jouer. En fait, au-delà de la notion de jouer ou même du temps d'écran, ça va être vraiment une éducation aux jeux vidéo et de dédramatiser le jeu vidéo, parce que au final, tout le monde joue aux jeux vidéo. On pense que c'est une nouvelle technologie, mais alors c'est très ancien.
Oui,
c'est vrai. Et tout le monde joue. En fait, on est quand même dans une génération où on joue tous. Ça peut être genre au Tetris. voilà, il y a eu des jeux très anciens.
Snake. Tu,
c'est ça.
Snake sur les téléphones.
Et donc, il faut dédramatiser. C'est juste que maintenant, oui, la technologie a fait que le jeu est beaucoup plus réaliste. Au niveau du visu, au niveau du texte, au niveau de plein de choses. Et après, donc, dans ce podcast-là, on dédramatise donc le jeu vidéo et comment aussi accompagner et prendre plaisir au jeu vidéo. Parce que si on a un enfant qui est fan de ça, pourquoi pas? Il a tout à fait le droit. Mais c'est comment l'accompagner dans ce hobby, au fait. C'est comme si, votre enfant, il adore le judo, on va l'accompagner. Là, c'est les jeux vidéo. Ce qui gêne, c'est l'écran, en fait. C'est pas le jeu vidéo en lui-même. C'est l'écran. Et donc, c'est pour ça. C'est vraiment tout un accompagnement. Comment réguler? Comment faire avec? Tiens, et puis, il y a des lois. Il y a les lois PEGI par rapport aux âges, pour les tout petits. Donc, il y a plein de choses, en fait, dans ce podcast au niveau des jeux vidéo où, voilà, on est là à donner des petits conseils et c'est super sympa. Et
donc, de la sensibilisation grâce à ces différents podcasts.
Oui.
Des outils, en tout cas, des conseils, pour aller mieux en quelque sorte et pour pas non plus à abuser des jeux vidéo à profusion, même si on aime ça, faut savoir aussi se limiter, hein.
C'est ça, c'est au-delà de limiter, c'est de mettre un cadre, en fait.
Oui, un cadre
éducatif, et puis après, ça devrait bien se passer.
Faut pas être trop fermé à l'idée non plus.
C'est ça.
Pas être trop ferme avec son enfant là-dessus. Mais voilà, avoir des petites limites.
Donc on va sur le site Info Jeune Val-d'Oise, par exemple, pour récupérer un QR code, pour être redirigé vers les 6 podcasts ou sur le site directement.
Alors nous, ça nous ferait très plaisir que vous passiez vers le site, mais c'est déjà simplement dispo sur toutes les plateformes d'écoute, que vous ayez à la maison Spotify, Deezer ou qu'importe. C'est déjà disponible sur n'importe quelle de ces plateformes. Mais vous pouvez retrouver un très joli petit article qui vous donne tous les liens de tous les épisodes.
Parole d'ado, regard de pro. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur IDFM Radio. Nous étions avec Lisa Goïta et aussi Laurie Nguyen. Bon retour à Cergy.
Merci, merci.
D'autres projets, je suppose, pour cette année 2025, toujours, bien évidemment, aider les jeunes avec d'autres idées, toujours continuer le Café des Parents aussi.
Oui, on a toujours beaucoup d'événements, que ce soit au niveau Info Jeunes Val d'Oise. Vous pouvez, et donc les jeunes peuvent récupérer toutes les informations déjà sur notre site. Et il faut bien voir que Info Jeunes Val d'Oise, on est sur plusieurs thématiques. On n'a pas que le Café des Parents. On est là aussi pour tout ce qui est leur projet, leur recherche d'emploi, leur recherche au niveau du logement, la mobilité, les loisirs. Enfin, on a beaucoup de thématiques. Nous, on est ouvert du mardi au vendredi de midi à 18h. C'est complètement gratuit et anonyme pour toutes les questions que des adolescents peuvent se poser. Droit d'accès aux droits, enfin voilà.
Il ne faut pas hésiter à venir vous voir.
Exactement.
Oui, il faut passer la porte, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée et à bientôt sur IDFM Radio.
Merci.